radio Okapi.
Okapi. Okapi service. Tati Mampoukou. Okapi.
Auditrice, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Comment prévenir et soigner les paludismes? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Dr Jean Ngbali. Il est spécialiste en paludisme. Bonjour Dr Jean Ngbali.
Oui, bonjour, c'est plutôt Dr Angbalou, Angbalou Jean.
Je rectifie, bienvenue dans Okapi Service, c'est Dr Angbalou. Si vous êtes intéressé par ces sujets liés au paludisme, quelles sont les causes et les moyens de prévention? Appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 99 41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pendant le déroulement de l'émission pour vous donner la parole. Envoyez-nous vos commentaires et suggestions par SMS par ces mêmes numéros. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service. @radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à Mvezolo est à la réalisation et Pierre Diassino s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment soigner et prévenir les paludismes? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler dans le déroulement de l'émission. La République démocratique du Congo comptabilise le deuxième nombre le plus important des cas de paludisme et des décès de cette maladie dans le monde selon l'OMS. En 2012, 12% des cas de paludisme et 13,2% des décès dus au paludisme sont survenus en RDC et le pays a comptabilisé 53,1% des cas des personnes affectées par le paludisme en Afrique centrale la même année. Quelles sont les causes du paludisme? Comment les prévenir et comment les soigner? C'est ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Docteur Angbalou, dites-nous comment pouvons-nous définir le paludisme, cette maladie-là?
Bien, merci beaucoup pour la parole. Le paludisme, c'est une maladie que les gens pensent être banale et qu'on appelle communément la malaria. Le paludisme est causé par la piqûre d'un moustique femelle appelé Anopheles. C'est ce moustique-là qui transmet le plasmodium de paludisme qui cause la maladie chez l'homme. Voilà en gros ce que je peux dire succinctement sur ce que c'est le paludisme.
C'est une maladie.
Mais en guise d'introduction.
Oui.
Cette année, le thème, c'est accélérer la lutte contre le paludisme pour l'équité. Voilà un peu ce qu'on dit, un peu le thème sur lequel nous devons tourner, parce que nous sommes justement au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2024.
Merci beaucoup pour ces détails, docteur. Est-ce que la malaria est une maladie uniquement qui sévit dans la région tropicale?
Oui. Surtout, oui, mais pas seulement, parce qu'il y a des pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine où la malaria sévit ou a sévi. Donc, c'est seulement, mais le milieu tropical est plus propice parce que tous les ingrédients sont réunis pour faciliter l'éclosion du paludisme.
Et quels sont ces ingrédients, docteur?
Bien, la première chose, il y a la végétation. Une végétation dense a comme conséquence la pluie. Donc,
des pluies abondantes.
Les grandes forêts, voire pluies abondantes, il y a la chaleur. Il y a la chaleur, c'est l'abondance de pluie. La chaleur, la végétation, voilà un peu les ingrédients qui font que le paludisme puisse éclore dans une région.
Et comment est-ce que l'homme s'est fait contaminer par la malaria, docteur?
Je crois que je l'ai dit dans ma définition. L'homme exposé à l'anophèle infecté se fait piquer. C'est lors de cette piqûre-là que le moustique transmet le parasite de malaria à l'homme. Et c'est par là que l'homme peut commencer à développer la maladie en fonction de son état d'immunité.
Pouvez-vous nous faire une idée sur les symptômes du paludisme, docteur?
Bien. Beaucoup pensent que le paludisme est une maladie banale. Il y a même le médecin, nous disons que la bête malaria. En réalité, la malaria n'est pas si facile que ça, parce que c'est justement le fait de négliger ou de minimiser les conséquences de malaria que les gens ne font pas un effort pour éviter d'attraper la malaria. Et ça, c'est très important. On va en parler quand on va entamer
la prévention, le moyen de prévention.
Voilà, exactement. Exactement. Donc, il n'y a pas de signes spécifiques. La malaria, il y a la fièvre, il y a les douleurs à la tête, la fatigue au niveau des articulations. Il y a des malaises qui peuvent être multiples, multiformes. Il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des vomissements. Il y a même des personnes qui développent des troubles gastro-intestinaux, même des diarrhées, suite au paludisme. Et les conséquences peuvent venir, là peut-être on va entrer en détail lorsqu'on va parler un peu de quelques complications après avoir brossé les généralités.
Oui docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la situation épidémiologique de la malaria ici en RDC?
Bien, je crois que vous l'avez brossé. Vous l'avez brossé. Et le paludisme dans notre pays, en tout cas, a une grande morbidité, c'est-à-dire le nombre de cas. Et c'est bien dit que dans notre pays, le paludisme est la première cause de consultation, voire de décès dans notre pays. Donc, chaque année, par exemple, nous nageons vers le 22 millions de cas par an et nous nageons vers les 22 000 décès par an. Voilà un peu en général le chiffre.
Oui, merci beaucoup pour ces détails, docteur. Est-ce que pouvez-vous, cette fois-ci, nous faire le point sur comment s'est fait la prise en charge médicale de cette maladie ici en RDC?
Bien. Moi, je pense, comme j'avais dit au départ, je vais essayer d'aller dans le sens du thème de la journée. Le thème de la journée parle de l'accélération de la lutte contre le paludisme. Alors, à quoi consiste cette lutte? Vous l'avez dit, il y a le volet prise en charge, c'est-à-dire le traitement et le diagnostic. Il y a le volet prévention. En matière de prise en charge, je crois que nous devons faire un effort pour prendre bien soin des cas de paludisme simple d'abord, parce que c'est plus facile à soigner. Et cela, ça évite la survenue de décès. une bonne prise en charge, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.
Oui, docteur, ça me permet, ça me donne l'idée. Oui, docteur, ça me donne l'idée de vous poser la question sur la typologie. Est-ce qu'il y a, il existe une typologie du paludisme ou de la malaria?
Bien, je pense que je vais y revenir. Laissez-moi terminer ce que j'ai commencé pour faire comprendre aux gens au fait ce qu'il y a.
D'accord.
On va y arriver du côté des typologies. Donc, il y a d'abord le problème de prise en charge, surtout chez les femmes enceintes et chez les enfants, parce que c'est dans cette tranche d'âge de personnes qu'il y a le nombre élevé de décès. Il y a aussi la prévention. Il faut une prévention efficace pour réduire le nombre de nouveaux cas et par là, réduire le nombre de décès. Comme vous l'avez dit, il y a la communication qui fait partie de la prévention. Mais nous devons épingler spécialement la communication sur le risque. Je crois que je l'ai effleuré au départ. C'est parce que les gens minimisent ou ignorent les gravités, la gravité de malaria, la maladie, que les gens ne font pas un effort pour justement appliquer les mesures de lutte et de prise en charge que le PNLP édicte. Voilà un peu. Quand des typologies, peut-être là vous posez la question de savoir quels sont les types de malaria.
Exactement.
On a le paludisme simple, on a le paludisme simple, on a le paludisme compliqué. Et dans le paludisme simple, lorsqu'il n'est pas soigné, on peut tomber dans le cas des échecs thérapeutiques. Et là aussi, c'est un type de paludisme. Il a été simple parce qu'il a été soit
mal soigné,
mal pris en charge. Mal soigné. Ou alors la personne même n'a pas respecté la prescription, ou alors il y a eu un problème de résistance de parasites aux médicaments ou de mauvais médicaments. Tout ça sont des éléments qui peuvent faire que les traitements ne puissent pas aboutir et qu'on puisse arriver à des échecs thérapeutiques.
Docteur Angualou, dans cette émission, nous donnons la parole également à la population. Donc, nous allons vous garder en ligne pour retourner au standard afin de donner la parole à la première vague des auditeurs qui ont appelé à travers les pays. Comment soigner et prévenir le paludisme? C'est de ces thèmes que nous sommes en train de débattre dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Patrick Audiard, vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati Mapoukou, bonjour docteur et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans Okapi Service, on vous donne la parole.
Oui, merci. Cette thématique, merci de m'avoir associé à ce niveau du débat lié à l'accélération. Je comprends qu'il y a déjà une lutte contre la malaria ou contre le paludisme, mais seulement on voudrait également parler vers l'accélération. Avant d'y aller, par exemple, je voudrais poser quelques petites questions au docteur. Nous avons eu la chance d'être au Cameroun, Brazzaville également, l'Afrique de l'Ouest. La température également est élevée. Et dans ces pays, qu'est-ce que nous voyons? On appelle de l'autre côté le paludisme, hein, le palu. Hein, c'est ça qu'on appelle de l'autre côté. Et une fois que la personne est atteinte par le palu, vous allez constater que ça arrive que la personne soit, comment on peut appeler ça, AVC, hein, comme sous forme d'AVC. Donc la personne n'aura pas la capacité de marcher. Vous allez voir que la personne, du coup, devient boiteuse un peu pour une durée et tout ça. Et quand je reviens au pays, je ne trouve pas cette typologie, comment on plaît de paludisme ou de malaria. Comment expliquer ce fait-là? Je pense que lorsqu'il prendra parole, il pourra également m'aider à comprendre un peu entre le malaria de l'Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve à Brazzaville, au Cameroun, et que sais-je, et celui ou celle qu'on trouve aujourd'hui.
C'est lui ici.
La malaria. Ça, c'est un fait. Dédé également. Donc, il prendra également la parole pour me dire si l'aspect écologique joue un rôle sur la prise en charge ou la prévention de paludisme en RDC. Ça, c'était un fait. Deuxième fait également, je pense que l'accélération se joue entre des responsabilités ou des personnes. D'une part, l'État, d'autre part, les personnes physiques ou les familles également. Moi, je suis chez moi, je regarde mon petit-fils ici, mon premier fils qui s'appelle Raphaël. À chaque fois que je le mets dans la moustiquaire, sa maman a l'audace de pouvoir enlever. Et chaque fois que je reviens, j'essaie de parler et d'expliquer de temps à autre que le rôle de moustiquaire n'est pas de toujours laisser l'enfant ailleurs. Non, non, il fait chaud. Je pense qu'il doit y avoir un travail sur le plan communicationnel, de sensibiliser surtout les mamans et les parents en général qui travaillent avec les enfants et d'une manière générale également pour permettre à ce que lorsque les moustiquaires sont donnés, qu'elles soient utilisées à bon escient également au profit de la lutte ou de la prévention également. Ça, c'est un fait. Dans la prise en charge, monsieur Tati Pampoukou, vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez tomber malade et on trouve malaria. On vous soigne, vous prenez les cures. Et après les cures, vous retombez également dans la maladie. Comment expliquer ces faits également? Est-ce tout simplement la faiblesse de l'État dans les contrôles de la qualité des médicaments qui entrent en RDC? Ça, nous devons les reconnaître. Je pense que le docteur prendra parole pour expliquer également quels sont les médicaments qui ont été interdits également pour entrer au Congo. Et ces médicaments continuent d'être utilisés ici en RDC dans la lutte contre, dans la prise en charge du paludisme également. Je pense qu'il prendra également parole pour essayer un peu de nous briefer. Surtout, c'est une question qui tue plus que les sida. Alors, je voudrais citer par demander à tous les parents également de prendre conscience. Il ne s'agit pas tout simplement de dire que l'État doit faire, mais je pense que nous devons également regarder ce que nous devons faire également. Il s'agit de notre vie, il s'agit de la vie de nos enfants, et cette question doit être prise au sérieux en prenant toutes les mesures préventives pour lutter ou accélérer également la prise en charge, ou j'allais dire la lutte contre le paludisme également. Pour citer, je voudrais dire tout simplement, quel est le budget que le gouvernement national et au travers le ministère de la Santé publique et hygiène a-t-il mis en charge, le gouvernement a-t-il mis en charge un budget? Quel est ce pourcentage de budget là? Est-ce que l'État, dans ses missions régaliennes, la sécurité, la santé, je pense que la santé occupe l'une de ses missions régaliennes d'apporter une bonne solution, une bonne santé à tous les peuples également. Est-ce que l'État a-t-il prévu un budget colossal, des moyens conséquents humains et autres, dans la prise en charge des médecins, dans la prise en charge des infirmiers, pouvant lutter contre cette prévention? Ou bien, il s'agit tout simplement des thèmes verbaux et qui nécessitent en pratique un peu plus d'efforts également. Je pense que tout se joue entre la volonté des parents et d'autre part également du gouvernement également. Mais je salue également la sensibilisation par la radio Capi et aussi j'invite d'autres radios également, d'autres chaînes à emboîter les pas, à lutter contre cette maladie qui tue silencieusement. Tati Mapou, qui tue? Les gens pensent qu'il n'y a que le sida, l'AVC qui tue. Mais non, le paludisme tue silencieusement. Et si nous ne tuerons pas ou ne prenons pas garde, ça va nous amener à des morts que nous ne saurons pas contrôler également. Je cite en disant également...
Rapidement, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, s'il te plaît.
Certainement, je voudrais citer en disant que toutes les questions qui ont été posées par moi, je pense que l'auditeur, l'invité pourra nous éclaircir sur les typologies trouvées à l'Afrique de l'Ouest ici, mais aussi en invitant tous les parents à prendre des mesures préventives dans les familles, parce que même si l'État devrait dicter des mesures, mais cela devait s'appliquer dans nos familles restreintes. Il ne faudrait pas que Chilombo, monsieur le président de la République, puisse quitter, même si son régime a une part de responsabilité, disons-le ouvertement, mais aussi, nous devons également prendre la conscience que non seulement l'État a une responsabilité, nous aussi dans la famille, nous devons avoir la responsabilité. Même dans les écoles également, cette culture doit être enseignée, la prise en charge sanitaire également. Je pense que c'est une question très importante.
Merci beaucoup, monsieur Odia, pour tes questions et ton interpellation, ainsi que tes suggestions. Donc, l'invité aura le temps de commenter sur tes préoccupations. Deuxième auditeur, il intervient depuis la ville de Bounia. Il s'appelle Justin Calabia. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur Tati Mapoukou. Bonjour à notre...
Nous vous donnons la parole. Allez-y.
Oui, merci, monsieur. Aujourd'hui, monsieur Tati, en tout cas, de m'avoir associé à cette très bonne émission. Oui, en tout cas, nous comprenons qu'il y a un changement climatique qui peut, en tout cas, être à la base de ces fléaux, mais aussi la prise en charge de l'OMS. Voilà ce qui était, en tout cas, à la hausse de ces paludismes. Monsieur Tati, quant à ça, j'ai trois questions. La première, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé...
Malheureusement, la liaison n'est plus bonne avec la ville de Bounia. On va tâcher de rappeler, hein, l'auditeur qui a appelé de Bounia. Il s'agit de Justin Calabia. Cette fois-ci, nous allons à Lubumbashi pour donner la parole à Charles. Charles, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour Papa Tati. Bonjour aussi au docteur. Sans oublier mes amis Patrick ainsi que Justin.
Nous vous donnons la parole.
Oui, avant d'aller plus haut, je voulais d'abord demander au docteur, c'est quoi une zone endémique? Parce que ces commerçants ici à Lubumbashi, ils filent les messages selon lesquels, en disant que nous sommes déjà dans une zone endémique, et c'est difficile de mettre fin à ce fléau-là. Est-ce que ce n'est pas une façon-là de nous décourager? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot qu'il faudrait commencer quand même à employer à lieu et place? Et puis, mon ami Patrick, vous avez dit quelque part la conscience. Moi, je pense que cet argument-là n'a plus de place au jour d'aujourd'hui. Ici à Lubumbashi, où je suis, où vous êtes également, nous avons pris cette conscience-là. On a bénéficié des moustiquaires qu'on nous a distribués d'ailleurs, très gratuitement. Mais je me rends compte que les moustiques ont expérimenté. Les moustiques ont vu que il fallait maintenant nous laisser un temps libre pendant la nuit et pour nous profiter pendant la journée. C'est compliqué ici à Lubumbashi. Même pendant la journée, nous sommes victimes et sommes attaqués. Nous qui sommes enseignants, par exemple, dès que vous entrez dans une salle de classe très tôt matin ou dans un cabinet quelque part très tôt matin, vraiment vous allez regretter. Et moi, je contredis souvent parce que j'ai toujours fait une étude, une analyse là. Dans ces domaines-là, à ce qui concerne la chaleur, moi je vois que c'est faux et archi-faux. Dans le Nord Katanga, tout comme dans le Sud Katanga où j'ai fait cette étude-là, dans le Nord Katanga, précisément chez moi à Manono, il fait terriblement très très chaud. Mais il n'y a pas cette maladie-là, il y a d'autres maladies comme la rougeole, le choléra, qui font rager dans ces coins-là. Alors, moi, je me rends compte que, particulièrement dans les sites ici ou à Lubumbashi précisément, il faut assainir nos milieux. Notre ville est de plus en plus très sale. Il y a des gîtes de reproduction de ces moustiques-là, ça et là. Et nos chefs de quartier ne font absolument rien. Ils ne sont même pas connus du public. En tout cas, vous allez voir, il y a autant de montagnes d'immondices, c'est ceux qui sont à la base ici à Lubumbashi. J'aimerais à ce que, à ce nouveau gouvernement, on puisse d'abord conscientiser, pas les parents, ils sont déjà conscientisés, mais qu'on puisse conscientiser nos chefs de bloc des rues pour qu'on mette fin à cette insalubrité-là.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Charles. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Merci beaucoup pour votre contribution concernant l'insalubrité que vous avez décriée au niveau de la ville de Lubumbashi. Nous retournons ici au studio avec un autre invité. Comment répondez-vous à Maître Patrick Odia, docteur qui est intervenu depuis la ville de Lubumbashi?
Oui, merci beaucoup. En tout cas, je suis très très content des interventions de ces deux auditeurs. Ça montre qu'ils sont en train de suivre la lutte contre le paludisme et qu'ils connaissent les difficultés qu'il y a pour mettre les choses en. Je pense que si on m'avait laissé le temps de terminer mon introduction,
ils allaient avoir la plupart des réponses, oui.
Se retrouvent dans les défis que j'allais développer, mais on va le faire plus tard, répondre un peu à leurs préoccupations.
D'accord.
Je prends par exemple le premier auditeur. Par rapport à des formes de paludisme dont il a parlé au Cameroun et tout ça.
En Afrique de l'Ouest et puis celle qui se vit ici.
Voilà, par rapport à ce qui se vit ici avec les conséquences de l'AVC. Le paludisme est une maladie grave lorsqu'elle est compliquée. Et il peut se compliquer des troubles de cerveau qu'on appelle encéphalopathie.
C'est ce qu'on appelle couramment la malaria cérébrale, docteur.
Exact, exact. La malaria cérébrale, et ça peut aller dans tous les sens. Mais il reste à savoir, est-ce que les cas dont il a parlé, ce sont réellement les cas de paludisme? Parce qu'il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie, une comorbidité qui s'est associée à la malaria pour amener à ces cas de paralysie ou des AVC dont il a parlé? Donc, il y a là aussi un problème de diagnostic différencié. Mmh. Il faut certainement une recherche pour voir s'il y a effectivement ce dont il a parlé là est en rapport avec la malaria et c'est associé à quoi? Parce que jusque là, on peut avoir des problèmes, mais juste aller dans l'AVC, ça devient vraiment spécifique. Et il faut des études pour essayer de confirmer ou d'infirmer cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, certainement là aussi en rapport avec l'aspect écologique. Le troisième intervenant est revenu là-dessus aussi. C'est très important. On appelle malaria une maladie endémique. Qu'est-ce que c'est une zone endémique? Au fait, une maladie est appelée endémique lorsque les facteurs du milieu qui favorisent la persistance de cette maladie dans cette région. Nous avons parlé ici de végétation, nous avons parlé d'abondance de pluie, nous avons parlé de la chaleur, et nous avons ajouté aussi, comme le troisième auditeur a dit, le problème de l'insalubrité dans nos milieux. C'est très, très, très important. Peut-être si on aura le temps, on va en parler quand on va parler des mesures de prévention. Oui. Quant au budget, là aussi, c'était parmi les défis. Le pays a déjà fait un effort pour augmenter le budget de la santé en général pour aller vers les 14-15%. Mais le défi reste dans ces 14-15% de la santé en général. Combien est réservé à la lutte contre le paludisme? C'est là un grand problème. Et même ce qui est réservé là-bas, on arrive à mobiliser combien? C'est ainsi que nous avons toujours eu des problèmes avec certains partenaires où on travaille ensemble et qu'il faut, pour que l'activité puisse arriver, il faut la part du gouvernement. Souvent, cette part-là vient en retard, ce qui fait que les activités sont peut-être mises en place, soit avec retard, soit partiellement ou insuffisamment. Donc, quelque part là, nous avons le devoir d'augmenter notre budget et de financer effectivement la lutte contre le paludisme. En rapport avec on a parlé, rechute fréquente de malaria, quelles sont les causes? Je crois que je l'ai effleuré aussi. Il y a les problèmes de qualité des médicaments. Il y a les problèmes de respect de la prescription.
10 voilà. comprimés, c'est pas 8 comprimés. On vous prescrit 10 comprimés et vous prenez 8 comprimés, c'est pas ça, ça se passe pas comme ça, il faut respecter la dose.
Le rythme de prise des médicaments. Parce que quand on vous donne le médicament, on vous donne les conditions de cette prise en charge.
Matin et soir par exemple.
Et ensuite, voilà. Et ensuite, on vous dit, lorsque vous avez terminé le traitement, que ça marche, que ça marche pas, revenez voir les consultants pour lui donner la suite. Et souvent, nos patients ne le font pas. Une fois qu'on lui a prescrit les médicaments, il part sans que le médecin ou l'infirmier puisse savoir quelle était l'évolution du malade après le traitement. Ça aussi, c'est une mauvaise habitude, un mauvais comportement de la part des patients. Voilà.
Docteur, mais est-ce que... Oui, je voulais savoir, docteur, est-ce que l'automédication a une incidence sur la persistance de la malaria sur la persistance de la malaria chez les patients?
Mais absolument, c'est à cause de cela que on déconseille l'automédication. L'automédication, ça veut dire que vous prenez les médicaments sans savoir exactement vous prenez les médicaments pour soigner quoi et comment les soigner. comment les soigner. Parce que quand vous êtes malade, ça, on demande toujours de faire l'examen des laboratoires, confirmer la suspicion pour que vous puissiez donner les médicaments à connaissance de cause. Et voir par la suite comment va évaluer la maladie et que, à un moment donné, qu'on puisse savoir si ça n'a pas marché ou pas marché. Parce que si ça ne marche pas, ça donne l'occasion aux consultants d'aller plus loin pour chercher pourquoi ça n'a pas marché. Et la communauté doit savoir que son comportement, que ça soit dans la prise en charge, soit dans la prévention, c'est une façon de participer à la surveillance des maladies. Donc, il faut un dialogue, un échange de formation entre le système de santé et la communauté pour que tous nous puissions essayer d'être les acteurs de la surveillance des maladies.
Docteur, parlez-nous un peu du paludisme au fait chez la femme enceinte en pédiatrie. Est-ce que il a aussi des incidences majeures sur cette catégorie de personnes, la femme enceinte et les enfants?
C'est justement le deux catégories spécifiques sur lesquelles nous veillons particulièrement. Le paludisme est très souvent très grave chez les enfants de moins de 5 ans. Mmh. Et quand vous faites une statistique dans les décès du paludisme, c'est souvent les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est ainsi que qu'on insiste pour ces deux catégories de personnes. Il faut que la prise en charge, que la prévention soit efficace. Et d'ailleurs, dans la politique nationale, on dit que même le paludisme simple chez la femme enceinte doit être considéré comme un paludisme grave qui ne peut être soigné par une personne habilitée. C'est très important. Donc, le paludisme a des conséquences sur le produit de la conception, c'est-à-dire le fœtus. Tout comme chez les enfants de moins de 5 ans, il a de graves répercussions parce qu'il peut amener facilement au décès.
Docteur, nous retournons au standard pour donner la parole à une nouvelle vague d'auditeurs qui sont en ligne. Nous allons commencer par Ismaël qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour à tous, bonjour Tati Mapoukou, bonjour à l'invité et à tous les amis auditeurs de la radio Okapi.
Nous vous écoutons.
Ah oui, oui, la première question, c'est de savoir, mais à la naissance, là, il y a la prescription directe d'un produit anti-malaria. Et quelle est souvent l'importance de cette maladie? Parce que si nous voyons l'enfant qui vient de naître, ben, il est soumis à ce traitement-là. Mais la deuxième question est liée à l'environnement. Mais par rapport à l'environnement que nous avons, parce que si on fait, par exemple, pour éviter les pathologies, certaines pathologies, des maladies des mains sales, parce qu'ici souvent, le pali est associé souvent à la fièvre typhoïde. Comment on peut faire le parallélisme
entre les deux maladies-là, la coexistence de ces deux maladies-là, malaria, fièvre typhoïde.
La malaria. Maintenant, la prévention suit, et la fièvre typhoïde et la malaria, comme ça marche souvent en paire. Parce que je parle en tant que consoignant. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que dans la plupart des pays, nous voyons, on prend des... Quand il y a de l'eau stagnante, à Lubumbashi, il y a des rivières. Hein. Vous êtes partout là, vous voyez des rivières. Vous êtes à la commune, vous êtes plutôt au quartier Makoutan, le centre-ville. Mais partout là, si tu n'es pas bien couvert la nuit, tu ne peux pas passer la nuit. Et la moustiquaire a été distribuée. Mais quelles sont les conditions, quels sont les conseils que l'invité peut donner à ceux qui utilisent les moustiquaires imprégnés en vue de s'épargner à la malaria, parce que la plupart des cas, nous voyons cette moustiquaire soit utilisée pour garder les poules, pour faire ceci ou cela. Et l'assainissement aussi de l'environnement.
Merci beaucoup, M. Ismaël. Hein. Il y a un auditeur qui a relevé les aspects liés à l'insalubrité, donc on ne va pas se répéter. On est coincé par les temps courent vite également. Donc on donne la parole au deuxième auditeur, il s'appelle Fiston. Fiston, il est à Kolwezi. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour aussi à l'invité.
Nous vous écoutons.
Et Fiston Botaparti de Kolwezi. Merci pour le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai juste trois préoccupations.
Allez-y rapidement.
La première, j'ai entendu parler du vaccin qui est déjà mis en vigueur dans quelques pays pour lutter contre le paludisme. Qu'en est-il pour la République démocratique du Congo? Oui. Et une autre question, souvent, moi, je suis personnel. Souvent, on peut faire les tests de diagnostic rapide. On trouve que les tests sont négatifs et que le malade continue à présenter les signes du paludisme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Or, on n'a pas les microscopes pour faire la goutte épaisse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le docteur peut encore nous donner des précisions si on peut soigner seulement à se référant aux signes ou quoi. La troisième question, dans la résistance du paludisme, selon la politique nationale, on nous exige d'associer un antibiotique tel que clindamycine. Or, dans nos milieux, si c'est un antibiotique qui coûte très très cher, la politique nationale n'a pas prévu une autre alternative comme antibiotique qu'on peut associer à la quinine en cas de résistance. Merci pour mon intervention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Fiston Botta. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kolwezi que vous intervenez. Nous allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à M. Christian. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour. Oui, je voulais parler seulement. La malaria est une maladie trop dangereuse dans notre pays.
Quelle est la question, s'il vous plaît, Monsieur Christian? Monsieur Christian, s'il vous plaît, allez droit au but. Quelle est la question que vous voulez poser à notre invité? Malheureusement, il est loin de son téléphone. Docteur Angualou, comment répondez-vous à nos auditeurs? Le premier, surtout, le premier auditeur qui a intervenu depuis la ville de Lubumbashi, Monsieur Ismaël.
Oui. Merci à Monsieur Ismaël. La première question, il parle de l'injection à la naissance d'un produit contre le malaria. Je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de cela. Mmh. En tout cas, dans la politique nationale de lutte contre le paludisme, il n'y a pas un médicament qu'on peut injecter à l'enfant à la naissance
contre le paludisme.
Il faut qu'il se renseigne très bien. En tout cas, ça n'existait pas. En rapport avec les rapports entre malaria et fièvre typhoïde. Là, au fait, il n'y a pas de relation directe. Le problème, c'est au fait une certaine erreur que nous, les corps médicaux, nous commettons parce qu'il y a une positivité, je dirais, croisée entre les tests de Widal qu'on fait. Un test de Widal peut être positif lorsque la personne a la fièvre typhoïde et lorsque la personne a la malaria. C'est ainsi que lorsque quelqu'un vient pour le paludisme et qu'on fait le test de Widal et ça sort positif, là le médecin prend comme diagnostic directement paludisme et fièvre typhoïde. Alors que le Widal n'est pas un test diagnostique. Le test de Widal, c'est un test qu'on utilise pour suivre le traitement de fièvre typhoïde. Ça, je regrette un peu, ça c'est une erreur médicale, je ne reviens pas trop. En rapport, je voudrais revenir sur le deuxième auditeur qui a parlé du comportement des moustiques. Ça, c'est très important. Les moustiques est un être vivant. Et quand il se sent agressé, il développe aussi les mesures de protection. Et c'est ainsi qu'effectivement, de plus en plus, on commence à constater que le moustique, au lieu de piquer, comme on disait traditionnellement, entre 20h et 5h du matin, il commence même à piquer bien
les
avant
jours.
C'était. Et les gens commencent à constater que dans la maison, la journée, on commence à piquer. Et même aussi, on croyait qu'il venait suivre l'homme dans la maison. Maintenant, il attend l'homme même à l'extérieur de la maison. Donc, et ça pose le problème par rapport aux mesures de prévention. Donc, nous devons bien étudier le comportement des moustiques afin qu'on puisse développer des mesures innovantes pour lutter contre leur changement de comportement. C'est très, très important pour l'efficacité de la lutte contre le paludisme. Je remercie beaucoup cet auditeur d'avoir constaté ça et d'avoir posé ça comme question. Il y a aussi le problème de mauvaise utilisation de la moustiquaire, s'il vous plaît. Les gens prennent la moustiquaire, on leur explique comment il faut le faire, mais comme a dit l'auditeur, vous les trouvez en train de protéger un verger, en train de protéger les poules contre les éperviers. Ce n'est pas ça l'utilisation correcte des moustiquaires. Et c'est très important. Et là, ça vient un problème dans le défi. Quel est le comportement que la communauté doit avoir pour participer efficacement à la lutte
contre le paludisme? Docteur, il est courant de voir, hein, de voir les gens, par exemple, consommer périodiquement les ngadiadia, boire la décoction des Congo Bololo dans le cadre de la prévention du paludisme.
Ça, c'est de la foutaise. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois, ça, c'est de la foutaise. Et c'est là où je martèle sur la communication sur le risque. Lorsque la personne n'a pas encore trouvé que il y a des risques de décès par rapport à ça, il ne va pas marcher. Et c'est ainsi que la communication doit beaucoup insister, faire voir aux gens qu'il y a un grand risque de décès, de complications. Et lorsqu'ils acceptent, quand ils auront peur de cela, ils vont utiliser de bonnes manières les mesures de prévention que nous édictons. Je voudrais attaquer les problèmes des clindamycine. La personne a raison. Donc, lorsqu'il faut utiliser la quinine en comprimé, il faut associer avec la clindamycine. C'est cher, mais il y a aussi des personnes qui ne supportent pas la clindamycine. Là, ça pose des problèmes. Jusque-là, le programme n'a pas encore trouvé un autre antibiotique en remplacement. Donc, ça, c'est encore un défi. Voilà.
Il y a un auditeur qui est en ligne, on me signale, il s'appelle Joseph, il intervient depuis la ville de Bukavu. Joseph, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs qui nous suivent à ce même moment.
Nous vous écoutons, allez-y.
Ce que moi je peux dire que ça fait beaucoup d'années, depuis que nous sommes enfants, nous voyons beaucoup plus les problèmes de paludisme s'accentuer du jour au jour. Quand nous étions enfants, il y a des médicaments que les parents beaucoup plus nous plongeaient quand on a la malaria, et ça a été beaucoup plus efficace. Mais actuellement, nous sommes en train d'assister à beaucoup de cas, souvent même qui causent même les décès, surtout chez les enfants, même les adultes. Alors, tout ça, on ne sait pas maintenant comment est-ce que nous pouvons qualifier ce genre de choses-là. Alors, je ne suis pas beaucoup plus du domaine, mais je voulais poser une question à l'invité. Et surtout, qu'est-ce qui fait à ce que le paludisme puisse être beaucoup plus dans des milieux fréquents, et qu'est-ce qu'on peut faire beaucoup plus pour que cette maladie puisse beaucoup plus diminuer du tout, parce qu'actuellement, quand vous allez dans des hôpitaux, on peut vous prescrire des médicaments, on peut vous faire des consultations, mais paludisme ne peut pas manquer. Qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette maladie puisse beaucoup plus diminuer en termes de taux?
Merci beaucoup, M. Joseph Olumungu. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu que vous intervenez. Docteur Jean Angualou, comment répondez-vous à M. Joseph?
Oui, M. Joseph, je ne sais pas votre âge, mais je me rappelle aussi que moi, quand j'étais à l'école primaire, on me donnait chaque semaine le Daraprim. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Dans notre pays endémique, on ne peut pas faire la chimioprophylaxie, sauf chez la femme enceinte. Il a parlé d'un certain milieu fréquent. Je ne comprends pas très bien qu'est-ce que veut dire par milieu fréquent.
Des milieux trop fréquentés. Des endroits qui sont...
Ça, je n'ai pas compris.
Des endroits qui sont très fréquentés.
Ah, ok, c'est dans ce sens-là.
Oui.
Mais au fait, je ne pense pas que ce soit un problème des endroits fréquentés. C'est un problème de comportement. On peut être dans un milieu avec promiscuité et tout ça, mais lorsque le comportement est conforme à des mesures de prévention que le PNLP édicte, la promiscuité ne va pas vraiment intervenir dans la transmission du paludisme, dans le paludisme. Pour diminuer les taux, de façon générale, comme nous l'avons dit, c'est respecter les mesures de prévention, c'est essayer, c'est faire un effort pour bien suivre les mesures de prise en charge. Les comportements personnels y est pour beaucoup, et les comportements communautaires. Une communauté dans la santé est considérée comme une personne. Donc, tout ce que nous devons donner comme conseil à une personne, nous le faisons pour la communauté. C'est ainsi que j'insiste. Pour qu'on arrive à lutter contre le paludisme, il faut la part de la personne individuellement et la part de la communauté.
Donc, l'implication individuelle et collective.
Absolument.
Docteur, il y a des gens, il y a des gens qui ont l'habitude, dans le cadre de la prévention, de consommer, par exemple, certains produits dose unique, qu'on appelle des médicaments à dose unique, dans le cadre de la prévention à l'intervalle de 3 mois, sans pour autant se faire consulter. Est-ce que c'est recommandé, cette pratique?
Bon, dans la politique, en dehors de la femme enceinte, il y a ce qu'on appelle la prévention des personnes qui n'ont pas une bonne immunité. Par exemple, les gens qui ont vécu plusieurs années en dehors des zones tropicales, où il n'y a pas de moustiques, ils n'ont pas une certaine pré-immunité. Ceux-là, quand ils viennent dans le milieu où il y a le paludisme, ils sont obligés de faire la prévention. Parce que comme ils ne sont pas protégés, s'ils ne font pas la chimioprophylaxie, ils risquent, lorsqu'ils font la malaria, de faire la malaria grave et de mourir. C'est ainsi que pour les personnes qui vivent en dehors de milieux où il y a la malaria endémique, quand ils viennent, on leur propose ce traitement prophylactif quelques semaines avant de venir, aussi de le poursuivre quelques semaines après avoir quitté l'endroit, afin de les protéger contre la complication du paludisme qui peut venir.
On est presque arrivé à la fin de notre entretien, docteur Angualou. Nous rappelons que vous êtes paludologue. Quelques conseils pratiques, docteur, dans le cadre de la prévention. Vous avez 2 minutes.
Bien, moi je pense que je voudrais profiter de ces 2 minutes-là pour parler plutôt de la défis que nous avons pour la lutte contre le paludisme. La première chose, c'est la mauvaise application de la politique édictée par les autorités, que ce soit par les individus, que nous, le corps médical. Deuxièmement, il y a le problème de la pauvreté de la population qui, quelque part là, explique parfois leur comportement. Ensuite, il y a un problème de couverture sanitaire. Si la population est près de la population de centres de santé et que les soins sont accessibles financièrement, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que nous devons relever pour donner à la population la possibilité de bénéficier des mesures de prévention et de prise en charge. Nous avons parlé des problèmes de financement insuffisant. On ne répétera jamais assez. Tout ce que nous pouvons avoir comme moyen, mettons-la dans la lutte contre la maladie, entre autres, si on veut avoir des résultats positifs. Et enfin, le problème de l'insalubrité. La salubrité aide à lutter contre le paludisme dans plusieurs aspects. Et je pense que l'Europe, même là où on a éliminé le paludisme, je crois que la salubrité, la propreté, l'hygiène y est pour beaucoup. Alors, pour terminer, les conseils que je veux donner, que les gens puissent se dire que le paludisme est une maladie grave. Qu'on cesse de parler des bêtes malaria, de dire que le paludisme, tout le monde peut le soigner, tout le monde peut le diagnostiquer. Non. Si les gens comprennent très bien que le paludisme a de graves conséquences, et pour éviter ces conséquences-là, il faut respecter les mesures de prévention et pouvoir suivre bien les traitements qu'on prescrit, je pense que nous aurons le temps de réduire drastiquement les cas de malaria. Déjà, notre pays, avec l'effort qu'il est en train de faire, nous constatons déjà petit à petit la réduction du nombre de cas et de décès. Il faudrait encore augmenter, c'est pourquoi on dit accélérer, pour que les résultats soient encore plus probants d'ici 3, 4, 5 ans.
Un petit commentaire, docteur, sur la pharmacopée dans le cadre de la lutte contre le paludisme.
La pharmacopée internationale moderne ou traditionnelle? Pas si la pharmacopée traditionnelle, pharmacopée moderne.
Docteur, il faut le reconnaître que la majeure partie de la population congolaise recourt aux médicaments, aux produits traditionnels pour se faire soigner de la malaria.
Donc, vous voulez parler d'un pharmacopée traditionnel.
Exactement.
Au fait, il y a quelques produits dans la nature qui peut lutter contre, qui peut soigner le paludisme. Quel a été toujours le problème? Le problème, c'est la dose, l'efficacité.
Merci beaucoup, docteur.
Il y a tout un problème. Oui. Il y a toute une direction nationale de médecine traditionnelle.
On est coincé par les temps. Merci beaucoup, docteur Jean Gualou. Nous rappelons que vous êtes paludologue. Merci d'avoir été avec nous dans cette tranche d'Okapi Service. Elle était impartie à l'émission, est épuisée. Excellente journée.
Merci beaucoup à tout le monde.